Radio de la Paix, il est 7 heures. Le bulletin de 7 heures, Didier Blé.
Merci de nous retrouver, excellent début de matinée à tous. Quelle contribution des banques centrales dans la stratégie de lutte contre les changements climatiques? Question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence internationale il y a 2 jours à Dakar, au Sénégal. Vous entendrez dans cette édition le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Cassibrou. Commémoration de la Journée internationale de tolérance aux mutilations génitales féminines et lancement d'un projet de lutte contre le fléau dans le baffing. Cissé Djigiba animait une conférence de presse mardi à la faveur de cette journée. Au Sénégal, Macky Sall justifie le report de la présidentielle en Conseil des ministres. Pendant ce temps-là, l'opposition s'organise. Dans cette édition, vous aurez la revue des titres présentée par Jean-Mélène Bitti vers la fin de ce journal. Et puis, dans l'invité de la rédaction en toute fin de journal, nous recevrons Landry Amoussou. Il reviendra sur les textes régissant les rapports entre les maires et les gouverneurs de district. Ce spécialiste des droits administratifs sera interrogé par Julien Cardin. Bonjour à tous et bienvenue. Quelle contribution des banques centrales dans la stratégie de lutte contre les changements climatiques? C'est cette question essentielle qui a fait l'objet d'une conférence internationale organisée les 6 et 7 février 2024 à Dakar au Sénégal par la BCAO, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, la BCAO, dont le gouverneur revient ici sur les conclusions de cette rencontre de 2 jours. On l'écoute.
Les pays africains polluent peu, moins de 5% des émissions de gaz à effet de serre, mais ont subi des chocs très élevés. Inondations, sécheresses, impact sur la santé avec les maladies qui se développent, etc. Et bien sûr, tout ça a un coût économique important. Et toutes les études montrent que l'Afrique, ça peut impacter 15% de notre produit intérieur. Ça veut dire que ce n'est plus un phénomène marginal, c'est un phénomène systémique. C'est-à-dire que ça peut impacter tout le secteur financier. Et dès que le secteur financier est impacté, les banques centrales sont interpellés. Parce que les banques centrales ont pour mission de stabiliser l'inflation, stabiliser le secteur financier pour assurer une croissance économique forte dans le pays. Donc la question c'était de voir au fond qu'est-ce que les banques centrales peuvent faire. Et donc on a pensé qu'il était bon de nous retrouver pour échanger et voir qu'est-ce qu'on fait. On a donc vu qu'il était important de mettre en place des mesures incitatives pour que le secteur financier dans son ensemble s'oriente vers le financement d'activités qu'on appelle les activités vertes. On a vu également qu'il y avait beaucoup de possibilités de financement au niveau des banques de développement, à travers les obligations vertes, par exemple, les mécanismes de financement alternatifs, le financement mixte. Et donc, il y a beaucoup d'opportunités. Et donc, il faut effectivement soutenir et accompagner pour que le secteur financier soit mieux à même de contribuer à limiter l'impact des changements climatiques.
Jean-Claude Brown, gouverneur de la BCAO. Le vendredi 2 février dernier, la tonne de cacao pour livraison en mars 2024 a atteint 5 017 $ américains, soit plus de 3 millions de francs CFA, contre 4 672 $américains, soit plus de 2 millions de francs CFA en une semaine plus tôt à New York. Il s'agit de la première fois que l'or brun franchit le cap des 5 000 $ depuis 1977. Pour le professeur Prao Yao Serafin, économiste et enseignant-chercheur à l'Université Alassane Ouattara de Boaké, cette hausse record du prix du cacao au plan mondial est liée à plusieurs facteurs, dont fondamentalement la baisse profonde de l'offre de fèves de cacao pour les principaux pays producteurs que sont la Côte d'Ivoire et le Ghana. Nous l'écoutons, il est interrogé par Aoussi Poutin.
Fondamentalement, la première cause est due à une baisse profonde de l'offre de cacao. Vous savez que les premiers producteurs en Afrique sont respectivement la Côte d'Ivoire, notre pays, avec 40% de l'offre, suivi du Ghana, 20%, et du Nigeria. Et donc, la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Nigeria, nous avons 70% de l'offre mondiale. Or, vous savez bien qu'il y a eu ces temps-ci une pluviométrie qui a déréglé la production cacaoïère. À cela, il faut ajouter aussi le problème de la diversification des revenus des planteurs. Et il faut ajouter aussi le fameux El Niño. C'est un réchauffement des eaux du Pacifique Sud. Et donc, ceux-là qui sont dans le Pacifique Sud, de l'autre côté, qui fournissent aussi le cacao, ont vu effectivement cette maladie jouer qualitativement et quantitativement sur la production. Donc, du coup, l'offre a baissé. Le déficit se situe aujourd'hui à peu près, selon les chiffres de l'Organisation mondiale du cacao, à 116 000 tonnes. Et à cela encore, pour ajouter pour finir, la spéculation par crainte effectivement de pouvoir fournir les fèves de cacao aux majors.
Est-ce que l'on peut s'attendre à une hausse des prix aux producteurs?
Non, je ne pense pas, parce que vous savez, depuis un certain nombre d'années, après la malencontreuse, pour ne pas dire malheureuse, expérience, n'est-ce pas, de la libéralisation de la filière café-cacao en Côte d'Ivoire, nous sommes revenus dans un système mixte où il y a une part de flexibilité exigée par la libéralisation et une part de fixité que nous avons empruntée effectivement de la caisse de stabilisation de feu au Faux-Boyer.
C'était donc Prao Yao Séraphin, professeur, économiste et enseignant-chercheur à l'université Alassane Ouattara de Boaké, était interrogé par Aoussi Potin, commémoration de la journée internationale de tolérance zéro aux mutilations génitales féminines et lancement d'un projet de lutte contre le fléau dans le buffing. Eh bien, l'imam Cissé Djigiba, président du conseil d'administration de la fondation Djigi, a animé mardi une conférence de presse à la faveur de cette journée. En Côte d'Ivoire, cette tendance de recul de la prévalence nationale est aussi observée. On écoute à cet effet la précision de l'imam Cissé Djigiba.
Vous savez que la lutte contre un fléau, n'est-ce pas, ne se gagne pas en un jour. Et particulièrement, notre arme, c'est la sensibilisation, la conscientisation et montrer tout ce que ça cause comme effet néfaste à court terme, moyen terme et long terme. La pratique de l'excision est en recul. Bien sûr, il reste encore des poches de résistance dans les zones rurales. Ça se comprend, mais aujourd'hui, avec les moyens de communication, les radios, les télévisions et les réseaux sociaux, toute la population est en phase d'être, en tout cas, mieux informée.
Imam, 36,4%, on passe à 20% en 2024. C'est un bon boulot, imam.
Tout à fait. Enfin, quand on n'est pas convaincu, on ne peut pas convaincre. Nous savons que c'est une cause noble que nous défendons. Sur certaines de nos radios, nous diffusons nos messages en 25-26 langues pour que toute la sensibilité linguistique des peuples soit touchée et que, en cela, nous puissions très rapidement avancer. Et c'est vrai, votre constat est juste de 36 à 20. C'est pas 20 n'est pas notre objectif. C'est un acquis et au-delà duquel il faut aller pour zéro tolérance.
L'imam Cissé Djigiba, président de la fondation Djigi, était interrogé par Gapiena Ouattara. 22 000 ménages vulnérables de la région de Gbeke ont bénéficié pendant 3 ans d'allocations trimestrielles avec 36 000 francs CFA. Cette action financée par le gouvernement en collaboration avec la Banque mondiale s'inscrit dans le cadre de la réduction de la pauvreté en Côte d'Ivoire et aussi contribuer à faire sortir les couches vulnérables de la précarité. Joseph Assalé.
Soucieux de l'amélioration des conditions de vie des populations, le gouvernement ivoirien en collaboration avec la Banque mondiale a initié depuis quelques années un programme dénommé filet socio-productif qui permet d'accorder une allocation trimestrielle de 36 000 francs aux ménages vulnérables. Dans la région de Gbeke, ce sont plus de 9 milliards de francs alloués en 3 ans aux bénéficiaires. Kone Aboubakar, point focal des filets socio-productifs à la direction régionale de la protection sociale de Boaké.
La région de Boaké, nous sommes à 8 678 ménages bénéficiaires en milieu rural et 13 427 ménages bénéficiaires en milieu urbain. Lorsque nous faisons le calcul, 9 549 360 000 francs CFA qui ont été versés.
En outre, une subvention complémentaire d'un peu plus d'un milliard de francs a été mise à la disposition des ménages bénéficiaires.
Pour les mesures d'inclusion économique, 1 591 millions 560 000 francs CFA versés. Plus de 70% des ménages qui ont bénéficié de ce programme sont aujourd'hui autonomes, sont aujourd'hui résilients.
L'initiative des filets sociaux productifs a été saluée par les bénéficiaires à l'image de cette dame.
On demande toujours au gouvernement de regarder ceux qui sont toujours pauvres.
Au titre de cette année 2024, 6 730 ménages sont éligibles au programme filet sociaux productifs dans la région de Gbeke. Joseph Assalé, Boaké, Radio de la Paix.
Et puis la lutte contre les feux de brousse, quels enjeux pour la sécurité alimentaire? Eh bien, c'est le thème de la campagne nationale de sensibilisation à l'intention des populations du Tonkwi, notamment celle de la sous-préfecture de Zagoué. C'est à l'initiative du ministère des Eaux et Forêts à travers sa direction régionale du Tonkwi. Compte rendu, Stéphane Adams.
Cette sensibilisation de masse a réuni experts et personnes ressources de la fonction publique pour montrer combien de fois les feux de brousse peuvent menacer la sécurité alimentaire, mais aussi la vie vie humaine. Le directeur régional des eaux et forêts de Mans, le colonel Tian Yapo Evariste.
Les chiffres récents que nous avons au niveau national déjà font état de 16 pertes en vie humaine. En termes de dégâts de culture pérenne, nous avons enregistré 37 000 hectares de plantations détruites. En termes de villages au plan national, nous avons également enregistré près de 94 habitats partis en fumée. Donc, c'est pour vous montrer combien de fois le feu de brousse crée des dégâts. Donc, il est important que chaque année, en pareille saison, nous puissions sensibiliser nos parents à le fait de réduire un tant soit peu ces fléaux qui gangrènent non seulement notre économie, mais qui constituent des pertes en vie humaine. Un message, c'est de dire zéro feu de brousse.
Le sous-préfet de Sandou Soba, Djeku Léonard, assurant l'intérim de son collègue de Zagoué, a salué l'initiative en ces termes.
C'est une bonne action de féliciter le directeur régional des eaux et forêts du Tonkpi. Après cette cérémonie officielle de mise sur pied du comité, nous allons les jours à venir donner des instructions claires pour que, en cette période de saison sèche, ils puissent sensibiliser nos parents dans les foyers pour éviter les feux de brousse qui détruisent chaque année notre couvert forestier et qui nous exposent aux effets négatifs du changement climatique.
Au terme de la rencontre, les populations se sont engagées à mettre en pratique les consignes reçues. Stéphane Adams, de Zagoué, Radio de la Paix.
Hors de chez nous, au Sénégal, Macky Sall justifie le report de la présidentielle en Conseil des ministres. Pendant ce temps-là, l'opposition s'organise. Le président sénégalais Macky Sall a profité le 7 février 2024 du premier Conseil des ministres depuis l'annonce du report de la présidentielle pour justifier son report. Le chef de l'État a renouvelé son appel à un dialogue avec tous les acteurs politiques du pays. Il ne faut pas tomber dans le piège du dialogue. Et a immédiatement réagi en cadre d'un parti d'opposition. Bien sûr, l'accusation qui lui est faite de tenter de rester au pouvoir. D'abord, Macky Sall a répété sa décision de ne pas pouvoir prendre, de ne pas vouloir prendre part à la prochaine élection présidentielle du Sénégal, il a précisé. Sans transition, nous allons retrouver pour la revue des titres Jean-Mélène Bitti. Jean-Mélène, bonjour.
Bonjour Didier Blé, bonjour à tous. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont à 48 heures du sacre continental pour un troisième trophée. Et sur cette finale, que disent les journaux de ce jour? À ce propos, Soir Info nous informe en disant « Éléphants, une finale méritée ». Le sursaut lui revient sur les clés du match et les joueurs à surveiller. Que dire du journal Le Temps qui revient sur le parcours des éléphants? Incroyable parcours pour des éléphants de l'enfer à la finale de leur CAN. Supersport lui invite les éléphants à donner le dernier coup du marteau pour tuer les Super Eagles. L'héritage de son côté voit cette confrontation contre le Nigeria comme une revanche dans l'air. Au matin de dire « Éléphant fier de vous », le peuple attend la troisième étoile. Le miroir d'Abidjan qualifie de mémorable la qualification des éléphants. CAN 2023, les éléphants inarrêtables fait savoir Fraternité Matin. Le jour plus de son côté invite les éléphants à finir l'aventure en beauté. Éléphant, Dame Coupe vous ouvre ses bras, barre l'expression à sa une. On termine avec le nouveau réveil qui met en manchette CAN de l'hospitalité 2023. Ce dimanche, les éléphants prêts pour un troisième sacre. Restons toujours dans la mouvance de la CAN 2023 avec le message du président de l'Assemblée nationale au sélectionneur des éléphants, message qui est relayé par certains organes de presse de ce vendredi. Premièrement, notre voix fait savoir que Bitogo écrit à MS Faï. Je sais que vous ferez ce qu'il faut pour gagner, annonce Bitogo dans les colonnes de Soir Info. À l'essor ivoirien, l'expression est le matin des dires. CAN 2023, qualification des éléphants en finale. Adama Bitogo félicite Emers Faye et les joueurs. Cette sortie du président de la haute autorité de la bonne gouvernance attire le regard de certains journaux de ce vendredi 9 février 2023. Et sur ce sujet, c'est le journal L'Expression qui ouvre le bal en titrant « Lutte contre la corruption, la Côte d'Ivoire enregistre des progrès importants. Gouvernance, déclaration de patrimoine, 83% des concernés se sont exécutés », nous dit Fraternité Matin. Fraternité Matin est suivi par le mandat qui indique « Déclaration de patrimoine, Epiphane Zoro, à partir du 14 février, nous allons poursuivre les retardataires. » La crise au Sénégal est en bonne place de cette revue des titres de ce jour. Sur ce sujet, notre voix fait savoir que la rue sénégalaise prépare la résistance. À Génération Nouvelle de dire Sénégal Macky Sall, une fin de mandat chaotique. Le miroir d'Abidjan s'interroge. Crise politique au Sénégal vers l'apaisement. La nouvelle alliance lui revient sur pour pourquoi le report préoccupe la communauté internationale. Voici l'essentiel des informations vues par vos journaux de ce jour. Merci à vos bacs à journaux et bonne lecture.
Merci à vous Jean-Mélène et on vous retrouve dans le prochain journal. L'invité de la rédaction pour fermer ce journal est enseignant-chercheur à l'université Péléforo Gonkoulibaly de Korogo, spécialiste de droit administratif. Dr Landry Amoussou revient sur les textes régissant les rapports entre les maires et les gouverneurs de district et répond aux questions de Junior Cardin.
Docteur Landry Amoussou, bonjour.
Bonjour.
On a assisté il y a quelque temps à des démolitions d'espaces et de constructions dans Abidjan. Et
oui.
À cette occasion, il y a une certaine brouille entre le ministre-gouverneur et des maires. En la circonstance, qu'est-ce que les textes prévoient? Est-ce que les textes sont clairs?
Oui, alors en réalité, entre les différentes compétences qu'il y a entre les mairies et le ministre-gouverneur, ces deux autorités interviennent parfois dans le même domaine. Donc les textes qu'on a sous les yeux ne sont pas suffisamment précis. Il faut être honnête, ils ne sont pas suffisamment précis et les risques de confusion sont patents, effectivement, et la brouille qu'il y a eu entre les deux est la conséquence du manque de clarté des textes en la matière.
Ça veut dire qu'il y a problème pour encore longtemps?
Oui, mais le manque de clarté n'intervient pas seulement dans les textes relatifs aux collectivités territoriales. Sans faire du coq à l'âne, on a eu également le problème d'interprétation sur le troisième mandat. Vous étiez là. Le texte constitutionnel était vu pour certains comme suffisamment clair, alors que d'autres estimaient que ce n'était pas possible. Donc en droit, ça existe qu'un texte, à un moment donné, pose problème parce qu'il n'est pas suffisamment précis pour pouvoir partager les différents points de vue.
Mais quand les problèmes surviennent, comment donc pouvoir trouver des solutions? Parce que dans les relations entre les autorités, il y a régulièrement quelques problèmes.
Il faut saisir le juge. Le juge est juge de la légalité des textes. Donc c'est lui qui, lorsque l'affaire lui sera soumise, saura exactement donner une interprétation au texte. Sinon, au-delà de son interprétation, chacun va essayer de tirer le drap de son côté. C'est des conflits normalement qui se traitent devant le juge administratif.
Et pour le cas du plateau, pour être plus précis, on a parlé de l'espace Diakona où le député maire Jacques Ewo s'est plaint de l'engagement unilatéral du gouverneur. L'engagement unilatéral, c'était ça, l'argumentaire du maire du plateau.
Oui, mais le maire ne peut pas exciper du fait qu'il possède dans la matière un texte qui prévoit qu'on doit le prévenir ou engager des discussions. C'est tout ça le manque de clarté, parce que chaque autorité estime dans son droit et il n'a pas à prévenir ou du moins entrer en discussion avec le maire. Alors que d'un point de vue des autorités, le ministre-gouverneur semble avoir une compétence beaucoup plus large que le maire du plateau. Donc en réalité, dans leur entendement, c'est le maire qui devait engager des discussions avec eux et non l'inverse. Parce que chacun, en fonction des textes qu'il a sous les yeux, estime être en droit d'agir de la sorte. Ça renvoie encore au manque de clarté parce qu'on a deux districts, on a encore les ministres-gouverneurs, et on a encore des maires. Effectivement, ils vont forcément se marcher sur les pieds. Il faut des textes suffisamment clairs et précis pour faciliter, je dirais, l'intervention de chaque autorité.
D'accord, mais en attendant, une vidéo avait circulé en boucle où le maire de Yopougon promettait de réquisitionner la force publique pour faire barrage aux démolitions à Jesco. Cela est possible contre une décision du ministre-gouverneur?
Alors, là encore, c'est une mauvaise interprétation du texte. Le maire de Yopougon n'est pas habilité de réquérir la force publique contre une décision émanant d'une autre autorité administrative. Je crois que ça fait un peu désordre. Ce n'est pas comme ça que les choses fonctionnent. Il y a visiblement des entorses à la légalité. Normalement, voilà comment ça se passe. Ils peuvent saisir le juge. C'est le juge qui peut ordonner à l'administration de attendre, patienter le temps que j'examine les textes en la matière. On ne fait pas un bras de fer sur le territoire de la République. C'est pas comme ça les choses fonctionnent. Parce que l'autre autorité peut venir avec des policiers et vous avez des policiers. Non, c'est pas comme ça les choses fonctionnent.
Et dans le même sujet, le maire de Yopougon a également décidé de saisir le Conseil d'État pour dédommager les personnes impactées ayant des ACD et dont les maisons ont été détruites. Cette démarche peut-elle aboutir?
Il n'a pas qualité à agir. Ce n'est pas lui qui est impacté, c'est les personnes qui sont concernées qui saisissent le juge, pas le maire. Le maire ne peut pas s'auto-saisir, parce que pour saisir le juge administratif, il y a dans les pièces, il faut montrer qu'on a intérêt et on a qualité à agir. Le maire ne peut pas se substituer aux victimes. Ce n'est pas possible, cette voie ne peut pas aboutir, pas du tout.
Docteur Landry Amoussou, merci beaucoup.
Je vous en prie, merci beaucoup, à bientôt.
L'invité de la rédaction ce vendredi, le docteur Landry Amoussou, spécialiste de droit administratif, répondait aux questions de Junior Cardin sur les rapports entre les maires et les gouverneurs de district. C'est la fin de ce 7h, le rappel des titres. Quelle contribution les banques centrales dans les stratégies de lutte contre les changements climatiques? Question essentielle au cœur d'une conférence internationale organisée il y a 2 jours à Dakar, au Sénégal, par la BCAO. Vous avez entendu le gouverneur de la BCAO, Jean-Claude Cassibro. Commémoration de la journée internationale de tolérance zéro en relation aux mutilations génitales féminines, l'imam Cissé Djigiba, président du conseil d'administration de la Fondation Djigi, a animé une conférence de presse mardi à la faveur de cette journée. Et puis au Sénégal, le Macky Sall justifie le report de la présidentielle en conseil des ministres et pendant ce temps-là, l'opposition s'organise. L'information revient à 8h. D'ici là, excellente suite de programmes sur nos antennes. La suite, c'est avec Mel Emmanuel, justement, dans Les Matins de la Paix.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.